Les choses doivent arriver en leur temps. Si elles sont anticipées, il y a échec. C'est un peu comme ça qu'on peut le dire. Je dois vous dire que c'est une des positions du judaïsme religieux anti-sioniste, qui consiste à dire que le sionisme est une anticipation. Étymologiquement, ça anticipe à Sion. Mais, et justement, nous allons en parler ce soir, de cette problématique-là. Qu'est-ce que vous dites? Très bien, ben, je vous remercie de votre question, on va continuer là-dessus. Parce que tout ce qui nous gêne, c'est le fait que nous parlons français, c'est-à-dire une langue de sémantique gréco-latine et d'implication plutôt chrétienne, disons, bien que par ce biais-là, quand même biblique, mais traduit dans d'autres catégories. Alors regardez. Par exemple, dans le Torah, je suppose même dans des cours d'hébreu plus avancés, lorsqu'on entreprend de traduire la formule que nous appelons la formule de la bénédiction, qui se dit en termes techniques le logis, E-U, du grec E-Logos, le logis. C'est comme ça qu'il faut dire, je veux dire pourquoi. Parce qu'avec bénédiction, on est désorienté pour traduire de l'hébreu. E-Logis, c'est clair. Ça veut dire souhaiter le bien de quelqu'un ou dire le bien de quelqu'un, dans le sens du souhait. Alors la formule de base, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Et je vais traduire comme on le traduit habituellement. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Okay? Vous rappelez de vos cours de catéchisme. Okay? Eh bien, l'école du dimanche. Et alors, tout est faux dans cette traduction. Parce que Baruch, ça ne veut pas dire Baruch Ata. Ça ne veut pas dire béni sois-tu. Ata n'a jamais voulu dire sois-tu. Ata, ça veut dire tu es. Je te reconnais comme étant comme ça. Okay? Et Baruch, ça veut dire être béni. Parce qu'on vous traduit souvent loué sois-tu. Parce qu'on n'ose pas dire béni sois-tu. Tout est faux là-dedans. Okay? Vous avez bien compris? En fait, Baruch, c'est un participe passé, passif, d'essence et pas d'attribution. Baruch, ça veut dire tu es le béni par toi-même. Et ça veut dire personne ne peut te bénir. Et quand je dis à quelqu'un, en parlant à Dieu, tu es le béni, ça veut dire je te reconnais comme étant source des bénédictions. Parce que c'est toi qui es béni, et par le fait que tu es béni, tu bénis. C'est tout à fait autre chose. Donc Baruch Ata, ça veut dire je reconnais que tu es le béni. Et ça veut dire que je reconnais que ce que je reçois de toi, je le reçois en bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire en bénédiction? Ça veut dire en ce plus-être dont j'ai parlé tout à l'heure. Si je ne reconnais pas cela comme béni, comme venant de toi, comme bénédiction, je n'ai pas le droit de l'utiliser. Tant que je n'ai pas reconnu reconnaissance, Odaya, je n'ai pas le droit de recevoir. Ça veut dire je prendrai sans mérite. Ça me donne le mérite de prendre, de recevoir. C'est plus clair, Ken? Et je vais vous montrer, par exemple, la différence de mentalité religieuse dans les conduites de la bénédiction entre le judaïsme et, par exemple, le christianisme, puisque le français nous employe. On a, par exemple, la notion de pain béni. Pour le chrétien, c'est très clair. Avant la formule de bénédiction, le pain n'avait pas de bénédiction. La formule va le mettre dedans, la bénédiction. C'est clair. Ça, c'est du pain béni en français. Oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a que ça. Et je ne parle pas de l'hostie. Ça poussait à la limite dans un autre degré. Mais je dis simplement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire du pain béni? C'est l'erreur que font les juifs. Ils croient que parce que le rabbin a dit la bénédiction sur le pain, alors quelque chose de mystérieusement sacré s'est introduit dans le pain et grâce à Dieu, ça fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on parle en français. Alors qu'en hébreu, c'est juste le contraire. Ça veut dire qu'en prononçant la bénédiction sur le pain, j'enlève l'interdit qu'il y avait sur le pain. Je me donne le droit de le manger. Parce que c'est le pain qui est béni en tant que pain. C'est pas ma parole qui l'a béni. C'est la farine qui est bue. Vous voyez dans quelle autre mentalité nous nous trouvons? Est-ce que c'est clair? Le mot de sacré n'existe pas en hébreu. Ce qui existe, ce mot de sacré, c'est un mot païen. C'est de la magie. J'ai dit une formule et subitement le pain va devenir efficace. Le pain est efficace s'il est bien pétri. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Et seulement avant de reconnaître que c'est une grâce que je reçois du Créateur, j'ai pas le droit de l'utiliser. En remerciant à l'avance, je me donne le droit. Ça veut dire j'ai enlevé l'interdit. Biharti et Kodesh. J'ai enlevé, comme disent les sociologues, j'ai enlevé le tabou. Quel tabou? Tant que j'ai pas mérité, c'est pas à moi. Ce tabou-là. C'est pas que j'y ai mis du sacré, alors ça se digère mieux. Vous avez compris le changement de sens qui se passe dans les traductions. Vous comprenez? Et j'espère vous avoir donné par là un exemple supplémentaire de l'impossibilité d'être juif vraiment en dehors de l'hébreu. Je pense que c'est bien clair. Bon, c'est la raison pour laquelle le Talmud, je raccourcis le raisonnement, dit par exemple, celui qui répond « Amen » à une bénédiction est plus grand que celui qui a dit la bénédiction. Parce que celui qui a dit la bénédiction est censé la comprendre. Celui qui répond « Amen », c'est parce qu'il la comprend pas. Mais au moins, il a dit « Amen » en hébreu. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai expliqué, mais trop rapidement. Il est interdit sur tout ce qu'il y a au monde que j'aurai à utiliser un à un tant que je ne l'ai pas mérité. Ce qui n'est pas moi ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu qui l'a créé. Il faut que je le mérite pour avoir le droit de l'utiliser. La Gemara, chapitre 9 du Brachot, dit de la traité Brachot, dit « Celui qui utilise quoi que ce soit du monde sans dire une bénédiction, est comme un voleur. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Même si je l'ai travaillé par mon travail, il y a quelque chose qu'aucun travail ne peut me donner. C'est le fait que ce pain que j'ai travaillé a un goût. Et la bénédiction, c'est le goût du pain. Vous comprenez la différence? Et je donne un exemple. Vous connaissez ces conduites qu'on appelle les anorexies. Dans le fond de l'anorexie, il y a le sentiment de cela. Je mange pas parce que c'est pas, tout simplement, parce que c'est pas. Et alors quand un adolescent ou une adolescente est prise par ces conduites très compliquées d'ailleurs de l'anorexie, ça veut dire qu'il y a un éveil de la conscience morale qui n'a pas été aidé. Alors, vous savez ce que c'est qu'une névrose, ça s'inverse en agression sur soi-même, je ne sais plus comment on dit ça. Ça veut dire qu'on arrive à l'âge où la conscience morale commence à pressentir que je n'ai le droit de recevoir que si je mérite. Et par conséquent, ça commence avec la nourriture. Surtout par le fait que la nourriture vient des parents. Dans les familles traditionnelles, quand ça apparaissait chez les jeunes gens, on envoyait le garçon ou la fille manger chez la tante, la cousine. Là-bas, ils mangeaient bien. C'est vrai ou pas? Parce que la relation avec les parents au niveau de la nourriture, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et alors, tout simplement, il faut déceler qu'il y a là une conduite de la moralité qui se relie à cette loi du Shulchan Aruch. Tant que j'ai pas mérité, je peux pas manger avec appétit. Je vais donner un autre exemple. La conduite de l'invitation. Dans les conduites de l'hospitalité, quand vous avez par exemple, et ça c'est l'hospitalité traditionnelle, quelqu'un vous invite à manger chez lui. Et il vous dit, rends-moi un service, viens manger chez moi. Quand vous avez entendu, par exemple, je vous dis comment on dit en judéo arabe, amelne mzia, mzia, c'est intraduisible. C'est-à-dire, fais-moi une jolie chose, viens manger chez moi. Pourquoi? Parce que si je ne te fais pas comprendre que c'est à moi que tu rends service, tu ne peux pas venir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire manger chez quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas, tu as honte. Quand tu sauras que c'est toi qui me donnes à manger, alors tu m'aideras à manger. J'ai compris le comportement. Alors c'est très exactement ça. Ça veut dire, la créature reçoit. Mais recevoir sans l'avoir mérité, c'est pas bien. Alors on ne peut pas recevoir, on refuse. Il faut être invité pour pouvoir. Parce qu'en étant invité, celui qui reçoit donne plus que ce qu'il reçoit. C'est pourquoi la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Par exemple, non, mais c'est très exact. Alors je reviens. Vous avez compris donc ce qui se passe là. Et il faut, minute, enlever cet interdit que la conscience ressent profondément, ne fût-ce que dans l'inconscient. Je ne peux pas manger quelque chose qui m'appartient pas. Alors quand je le reconnais comme étant une grâce et je dis merci, alors ça devient moi. En disant merci, j'ai acquis. Je ne peux pas être compris de cette manière. Parce que dire merci à quelqu'un, c'est très important. Ça veut dire lui donner envie de donner. Quelque chose comme ça. Ça revient à votre question. Quand je dis Baruch, j'ajoute de la capacité de bénédiction à la source de bénédiction. Ça, c'est l'explication du Nefesh Haïm. Oui, vous avez encore une question, mais ne me laissez pas oublier qu'on a un verset en suspens. Oui. Ça, c'est à Pessah, à Pâques. Oui, d'accord. Mais attendez. Le levain, c'est pas le Yetzirara. Le Yetzirara est pour la conscience comme le levain est pour le pain. Faites attention dedans. À Pessah, c'est interdit de manger du pain levé. Et c'est relié à ce que vous dites. Je vais quand même prendre un peu de temps pour ça. La première loi de Pessah, c'est qu'il faut inspecter si dans la maison il ne reste pas quoi que ce soit, où il y a du levain, mais en même temps il y a une mitzvah qui consiste à faire ce qu'on appelle un bilan de conscience et inspecter dans sa maison s'il n'y a pas encore une promesse qu'on avait faite et qu'on n'a pas tenue. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. C'est la raison pour laquelle il faut vider tous les tiroirs et relire tous les papiers un par un pour savoir si on n'a rien oublié. Sinon, on ne peut pas commencer Pessah. Et on appelle l'orgueil le Hamet, le levain de l'esprit. Comment on dit en hébreu orgueil? On se sert d'un mot qui signifie le front, Metzah. Le front, Metzah. Hein? Et c'est les mêmes lettres que Hamet. Alors, dans ce sens-là, vous avez votre relation. Mais ce dont je parlais précédemment, c'est beaucoup plus radical. Il y a incapacité de recevoir la nourriture tant qu'on n'a pas le sentiment que d'une certaine manière, on la mérite. Vous avez compris. Alors comment mériter quelque chose que j'ai en cadeau? En disant merci. Ça suffit. Bien. Alors je reviens donc au verset du déluge. La démographie. Okay. C'est encore plus clair. C'est joli ça. Ça, j'achète. En tout cas, pour ce que vous avez dit précédemment, j'en tiendrai compte, mais je dois dire que, du point de vue du mirage, c'est encore beaucoup plus profond. S'il s'agit d'un homme déguisé en femme. Ça aussi, c'est la racine de la vraie sexualité. Alors, en tout cas, pour revenir à notre question, je peux vous poser une question si vous êtes compétent dans la culture. J'ai entendu dire que, selon les anciens médecins chinois, il y avait 248 points. Est-ce que c'est exact? Ah bon, eh ben les deux c'est joli, hein. Et 248. En tout cas, j'ai entendu cela en Israël. Et si vous pouviez me dire de quelle tradition vient le chiffre de 248?
Abraham.
Non. Bien. Vous pouvez. Très bien. Et 365, tout ça vient. Et 365. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Puisque le nombre des commandements positifs, c'est 248, et des commandements d'interdiction, c'est 365. Alors, ne commencez pas à vous répandre dans la nature en disant que les acupuncteurs avaient étudié le judaïsme. Bien, en tout cas, oui, pardon. Chut. façon précise.
Répétez, je vous prie.
Que de te plaindre pour homosexuel.
Ah.
Bon. Alors, revenons donc à notre verset bizarre de tout à l'heure. Le premier verset du chapitre 6, si vous l'avez sous les yeux, Vayi, et il arriva, qui échel à Adam, la robe, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier, al pene Adama, sur la face de la terre, ou banot, yundu la haine, et ils eurent des filles. Vous vous rappelez de ce verset? Bon, je vais vous changer une lettre dans la traduction. Il n'y a pas écrit Vayi, qui échel à Adam, robe. Il y a écrit la robe. Et ça veut dire en hébreu, et il arriva lorsque l'homme eut commencé par se multiplier avant de fructifier. C'est-à-dire, commencer, ça veut dire, il a commencé par vos buts avant peu vous. Vous avez compris? L'homme aurait dû être peu vous d'abord, ensuite rebout. Il a commencé par rebout. Alors la catastrophe, c'est que dans l'engendrement, le principe de multiplication a pris le pas sur le principe de fructification. Ou banot, ou la haine, et ils durent, voilà, c'est clair. Bon, alors nous revenons maintenant à notre sujet.
Oui. Pour revenir sur mon sujet de Yitzhak, qu'on est en train de voir, Yitzhak est le seul patriarche qui n'a pas quitté, qui n'est pas allé en exil.
Oui.
Et tout d'abord, j'avais dit qu'il a été plus loin à guérir. Voilà.
Oui, Gérard, très bien, très bien. Vous avez compris la question? Oui. Comment tu relis ça? Ça c'est un peu poétique ce que tu dis. Mais la question n'a pas été d'abord historique. On va parler de choses une à la fois, une après l'autre. Oui, oui, je vais expliquer. Nous avons vu dans l'explication du Maharal. Il y a différents niveaux de ce que nous avons appelé l'exil. Un premier niveau, ça s'appelle être guerre, être étranger, pas chez soi. Okay? Et le Maharal nous a dit, ce niveau, même ce niveau-là, le premier, le plus faible, Abraham n'est pas concerné. Ça commence avec Isaac. Isaac a eu cette expérience d'être guerre, même chez lui. D'où ta question, mais il y a un piège dans ta question. Objectivement, dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça aurait pu être une question piège. Et tu as compris ce que je veux dire. Alors la question de David est que, comment se fait-il qu'on dise qu'être guerre, ça commence avec Yitzhak, alors que l'on sait que Yitzhak est le seul des patriarches qui n'a jamais quitté Israël. Et j'ajoute, et c'est la raison pour laquelle la fin de l'exil est toujours attachée au mérite d'Isaac. D'une certaine manière, la preuve que cette terre nous concerne, c'est en tant que fils d'Isaac, plus qu'Abraham et Jacob. Parce qu'Abraham voyage, Jacob voyage, Isaac n'a jamais voulu voyager, n'a jamais quitté la sainteté des fêtes d'Israël. Et donc, chaque fois qu'on fait appel à un mérite pour avoir droit au retour, on s'adresse au Dieu d'Isaac, plus qu'au Dieu d'Abraham et de Jacob. Et effectivement, à propos de la sortie d'Égypte, la question que je vais poser maintenant concerne de nouveau les chiffres du temps de l'exil d'Égypte. Nous avons un passage de la Haggadah de Pessah, le récit de la sortie d'Égypte, qui dit que si Dieu n'était pas intervenu, nous n'aurions pas pu sortir d'Égypte par nous-mêmes. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que d'exil, on ne sort pas. C'est une grande halakha du Talmud. Enfin, je veux dire, c'est un principe bien tranché, il n'y a pas de controverse. On ne sort pas d'exil. La preuve, c'est que vous êtes là. On ne sort pas d'exil s'il n'y a pas une intervention providentielle. C'est sûr. On ne sort pas d'Égypte. On est quand même sorti d'Égypte. Alors c'est pourquoi nous disons, si Shakadosh Baruch Hu, Chishev et Aketz, que Dieu a compté la fin. Ketz, du temps d'exil. Comment? Ça veut dire, si nous avions compté les 400 ans d'exil, à partir de la descente de Jacob et de ses fils pour rejoindre Joseph, il aurait fallu attendre encore 190 ans pour que Moïse ait le droit d'apparaître. Est-ce que c'est clair? Or, ces 190 ans, Dieu nous les a économisés en comptant les 400 ans. l'arrivée de Jacob en Égypte, il y a 190 ans.
Donc 190 ans et 210 ans d'exil effectif, ça fait 400. Or, la naissance d'Isaac, ça veut dire le commencement de la Zera, postérité d'Abraham, concernée par cette prophétie d'exil. Et donc, dès sa naissance, Isaac a pris sur lui la situation d'exil chez lui, de telle sorte de pouvoir économiser le cas échéant ces 190 ans de sa descendance. Et pourquoi il y a eu accélération de la décision? Parce que, nous dit notre texte, si Israël était resté en Égypte, et c'est ça le diagnostic de Moïse, Moïse a vu qu'il fallait bousculer le temps. Si Israël était resté en Égypte, il disparaissait pour deux raisons, et toujours les deux raisons les mêmes. Assimilation galopante, les Hébreux se trouvaient bien en Égypte, ils s'égyptianisaient de façon accélérée. C'est toujours ces deux événements, éléments dont je vous parle, arrivent en fin de temps de diaspora. Premièrement, une dimension d'assimilation galopante. La Gadadi, Melamed, Sheayu, Metsukyanim, Sham. Le dernier verset de la Genèse, avec un humour colossal, nous dit ils s'installèrent dans le pays, et comme on dit dans les contes de fées, ils se marièrent et ils eurent des enfants. Vaïrbou, Vaïrhalsmou, Bimot, Muri. Imaginez qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps d'exil? Ils se démultiplient en s'installant dans l'Égypte. Imaginez un Hébreu à qui on aurait demandé dans l'Égypte du temps des pharaons, et où c'est chez toi? Et il répondrait, mais je me sens chez moi en Égypte. L'impérialisme. Alors on revient au problème. Faites pas de comparaison avec Paris. Parce que si jamais un jour vous demandez à un juif de Paris, où tu te sens chez toi, et qu'il vous répond à Paris, ça veut dire que l'impérialisme juif est en train d'annexer Paris. En tout cas, pour revenir à notre problème, le chiffre de 190 est exactement la valeur numérique du mot ketz qui signifie la fin. C'est bien, kouf, 100 et tzadik, 90. Donc, quand nous disons que Dieu a compté la fin, ça veut dire qu'il a fait précéder de 190 ans le commencement de l'époque de ces 400 ans, et c'est la naissance d'Isaac. Vous suivez? Bon. Ça veut dire que pour que le Ketz arrive, il faut le mérite d'Isaac. Et qu'est-ce que le mérite d'Isaac? C'est celui qui n'a jamais quitté Eretz Israël. Et c'est pourquoi il a pris sur lui d'habiter à Gerar. Il a pris sur lui je retrouve un petit peu ta question maintenant, cette position d'être étranger chez soi pour pouvoir assurer à sa descendance la soupape de sûreté de 190 ans. La première raison, donc, c'était l'assimilation. La deuxième raison, c'était la persécution. Si Israël restait en Égypte, il disparaissait. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous montrer la coïncidence dans le temps de ces deux dimensions, toujours. Une raison intérieure, déperdition d'identité, érosion d'identité. Une raison extérieure, danger de la persécution. La Kabbalah, le Midrash reprend ça. L'explique à sa manière en disant qu'Israël était déjà arrivé à la 49e porte de l'impureté. Il y en a 50. S'il était descendu dans la 50e, personne n'aurait pu l'en faire sortir. Et c'est pourquoi, de façon urgente, Moïse se dévoile et dit « c'est le temps ». Et il entend deux réponses. Deux réponses qui disent non. Les Égyptiens disent non, 400 ans. Vous nous appartenez, 400 ans. Et les Hébreux disent non. Ils disent 400 ans, nous leur appartenons 400 ans. C'est le débat de ce soir. Et alors, n'oubliez pas, si j'oublie de le dire ce soir, que tout le monde avait tort et que seul Moïse avait raison. N'oubliez pas cela. Imaginez, tous les grands rabbins de l'époque étaient contre Moïse. Mais qui a eu raison? C'était Moïse, ce n'était pas les rabbins. C'est clair? Et pourquoi les rabbins étaient contre? Parce qu'ils avaient une tradition, 400 ans. Et tu arrives 5 minutes avant la fin, ça va pas. Vous comprenez le problème? Alors on verra ça ce soir un peu plus en détail. Donc voilà notre question. Il y a un midrash très important sur le Kriyat Shema qui dit que, à la fin de sa vie, Jacob a rassemblé ses enfants pour leur dévoiler le moment de la fin de l'exil. Vous connaissez ce midrash? Et puis la prophétie l'a quitté. Et il n'a pas pu leur dire le ketz, dit la Midrash, ce même mot, c'est-à-dire le temps de la fin de l'exil. Alors inquiet, il se demande si ses enfants sont bien Israël. puisqu'il ne peut pas arriver à la prophétiser, la fin de l'exil d'Israël. Alors je vais expliquer la suite du Midrash d'après l'enseignement du Shla, qui est basé sur un texte du Zohar. Il dit ceci. Lorsque Jacob, pris d'inquiétude, n'arrive pas à prophétiser, il se dit, il n'y a pas de fin à leur exil. Alors il leur pose la question, et je vais rechercher ça notre problème. Shema Yeshbachem Het, peut-être y a-t-il parmi vous une faute? En vous, une faute. Quelle faute? La faute qui est sanctionnée par l'exil. Et si cette faute n'a pas de frère, l'exil n'aura pas de frère. Il a très peur. Alors le Midrash dit, c'est dans le Midrash Tanhuma, le Midrash dit que les enfants de Jacob se lèvent et lui disent, Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est la première fois que ce verset aura été prononcé, Hashem, notre Dieu, c'est le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas en nous de faute qui nous sépare. Mais le Midrash explique ça comme ça. Que les enfants de Jacob ont dit à leur père, prends nos noms et tu verras qu'il n'y a pas la lettre chet dans nos noms. Parce qu'en hébreu, chet, ça veut dire la faute. Et chet, c'est aussi la prononciation d'une des lettres de l'alphabet. Alors Reuben dit, prends mon nom, Reuben, tu vois, il n'y a pas de chet dedans. Shimon, Lévi, Issachar, Zvoulon, Yehuda. Aucun des noms des enfants de Jacob, il y a la lettre Het. C'est clair jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Épeler le nom de quelqu'un, ça veut dire le juger. Savoir si son identité correspond à son nom. Ça veut dire que les enfants de Jacob, en d'autres termes, disent à leur père, nous sommes des tzadikim, il n'y a pas de faute. Alors, pendant que Jacob épelait leur nom pour savoir s'il n'y avait pas la lettre Het, il fait deux découvertes. Il n'y a pas non plus la lettre Kouf, il y a l'être sadique, il n'y a pas non plus de quête. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de fin. Vous suivez? Je dis qu'on pourrait plaider à travers ce Midrash. Évidemment, Israël est innocent. L'exil, vous rappelez le Maharal, c'est l'usurpation du royaume par les empires. Vous rappelez de ça? Mais voilà, Israël n'est pas messianique, il n'y a pas de fin. Ils disent qu'il attend la fin, il n'y a pas de fin en eux. Vous suivez? Je vais dire ça en termes un peu techniques. Ça veut dire, bien sûr, Israël est innocent, comme dirait Mizrahi. Robert Mizrahi a écrit un livre là-dessus, l'innocence d'Israël. Mais l'eschatologie juive n'est pas sincère. Nous disons, nous attendons la fin, mais nous n'attendons pas la fin. Puisque dès que la fin arrive, on dit, ben, l'année prochaine à Jérusalem. Bon, c'est clair? Alors là, il y a une ambiguïté dans ce Midrash. Alors, je vais vous expliquer donc ce Midrash d'après le Shla, qui se base sur le Zohar. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Il n'y a de fin qu'en tant que fils d'Isaac. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Parce qu'en tant que fils de Jacob, nous sommes portés par une force qui n'a pas de fin. La tradition qui est que Jacob, notre père, n'est pas mort. Yaakov avinu chay. Yaakov avinu lomet. Il n'y a pas de dimension de fin dans l'identité de Jacob. Jacob est éternel. Et par conséquent, en tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Nous sommes portés par une force pour laquelle il n'y a pas de fin. En tant que fils d'Itsrak, alors nous avons le mérite de la fin. C'est clair. Si vous prenez le mot de Itsrak, vous verrez qu'il y a quatre lettres. Il y a Kouf et Tzadik, ce qui fait Ketz, et il y a Cheteyoud qui fait Chay. Chay, ça veut dire vivre. Et dans Itsrak, il y a deux identités contraires unifiées. Une qui est toute entière que vie. Il l'a donné à Jacob. L'autre qui est tout entière que fin, il l'a donné à Ésaü. Et c'est pourquoi le Messie d'Ésaü est un Messie qui est toujours déjà venu. La fin est en matière. Tandis que le Messie de Jacob est un Messie à venir. Alors, Chay de Jacob, c'est la dimension, il n'y a pas de fin. Et par conséquent, si nous n'étions que fils de Jacob, l'exil serait éternel. Mais comme nous sommes aussi les fils d'Isaac, alors la fin de l'exil vient grâce au mérite de Yitzhak. En réalité, de Rebecca. Parce que, et je vais vous dire le verset, lorsque Ésaü prend des filles de Canaan, et donc se disqualifie comme Israël, et vous comprenez la raison pourquoi, c'est-à-dire sa descendance ne sera plus Israël, elle sera cananéenne. Alors à ce moment-là, Rebecca dit à Isaac, arrange-toi pour que Jacob s'en aille chercher femme dans la famille d'Abraham, parce que si lui aussi prend femme chez les Cananéens, Kalsti Bechayai. Kalsti Bechayai, en hébreu, ça veut dire j'ai ma fin dans ma vie. Kalsti Zeketz, Hayai Zechai. Oui, donc c'est bien. Mais je vais m'expliquer surtout dans l'identité de Isaac. Isaac, c'est le patriarche qui, dans son identité, a la problématique de l'existence de façon absolue. La vie totale et la mort totale dans la même identité. Comment ? Il ne devait pas naître et il est né. Il devait mourir, il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il vit cette contradiction entre Ketz et Chai. Alors il a donné tout Ketz à Esaü et tout Chai à Jacob. Vous avez compris maintenant pourquoi nos deux messianités sont si opposées. La messianité chrétienne, celle d'Esaü, c'est Ketz total, la fin absolue. Et c'est passé toujours au passé. Ça, c'est Esaü. La messianité d'Israël, c'est Chai, dans cette dimension qui n'a pas de fin. Est-ce que c'est clair? J'avais dit une fois, je ne sais plus où, ici, en citant une phrase de Monfleg, qui était un de mes maîtres. Et Monfleg disait, vous savez que Monfleg a été un des initiateurs de l'amitié judéo-chrétienne, il était vraiment un pont entre le christianisme et le judaïsme à son époque. Je dirais plus entre la chrétienté et les juifs. Il n'était pas théologien, c'était un grand poète, c'était un grand homme d'ailleurs. Et il disait, au fond, quelque chose nous réconciliera. C'est que pendant que les uns attendent qu'ils viennent, les autres attendent qu'ils reviennent. Et quand nous étions jeunes, on applaudissait. C'est joli. Mais que sa mémoire reste en paix, c'est faux. C'est pas le même Messie. Un Messie qui vient et un Messie qui revient. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pas la même conception du temps. C'est pas la même conception de l'homme. C'est pas ça, c'est Esaü et ça, c'est Jacob. Vous avez compris le problème? Une minute. Et je sais bien, là je touche à un point important de la théologie chrétienne, qu'on appelle, dans le langage chrétien, la parousia. La parousie. Le fait qu'il est venu, mais il reviendra. Et pourquoi ça n'a pas réussi la première fois? Ça, c'est à cause des Juifs, c'est encore un autre problème. Mais ce Messie qui vient et qui revient, ça c'est un Christos grec. Le Messie qui vient et qui n'est jamais venu, ça c'est le Messie d'Israël, Chai et Paket, d'un côté qu'elle de ma terre. C'est donc le piège. Dans la messianité d'Israël, je laisse le côté maintenant dans la messianité chrétienne, c'est que lorsqu'il viendra enfin, on lui demande, tu es sûr que c'est toi? J'ai compris le problème. Ceci pourrait être assez objectif, puisque vous savez que je suis très engagé dans ce problème. Je ne vous ai pas dit que Ben-Gurion était le Messie, ça j'ai pas dit ça. Mais, d'ailleurs j'aurais dû dire Herzl, bon ben, Moïse. En tout cas, pour revenir à notre question, c'est que l'identification de Jacob en tant que tel, c'est celle d'une force qui s'appelle Hai, la vie, et la vie n'a pas de fin. En tant que fils de Jacob, encore une fois, on ne porte pas la fin. Et là, il y a ce piège de ne pas voir l'achèvement de cet état. Le jour où chaque homme se nommera Israël, Israël, il y a une fin d'exil. Et d'ailleurs, c'est le site même de la fin d'exil, c'est Israël. Quand nous étions dans l'exil, nous étions Jacob. Arrivé à la fin d'exil, on s'appelle Israël. J'ai remarqué, c'est pas une coïncidence. Et le nom de Juif, dans le premier sens, a subitement changé de signification dès qu'on a entendu Israël. Je peux vous passer le témoignage de ma génération. Jusqu'à l'existence de l'État d'Israël, le nom de Juif, c'était la pire des insultes. Chez les Juifs aussi. Il y avait une blague comme ça, une blague juive, que lorsque deux chiens s'insultent, ils se disent pas « sale homme », ils se disent « sale juif ». Et alors, subitement, le nom d'Israël éclate, et le sens du mot juif a complètement changé. Ça a marqué. C'est Jacob qui change de nom. Mais c'est le signe de la fin de l'Église. De l'Église. Bon, c'est la même chose. Et alors, là, il faut revenir à notre problème, que la différence des messianités, c'est le fait que d'un côté, il y a une messianité à l'indice du passé, alors que de l'autre côté, il y a une messianité à l'indice de l'avenir. Mais lorsqu'on écoute un point, c'est, je pense que j'en ai parlé lundi soir, c'est très important, c'est que vous avez dans cette problématique du messianisme juif, deux écoles. l'une qui est pharisienne et qui attend vraiment l'accomplissement, l'autre qui est sadducéenne et qui ne l'attend pas. Et pourquoi? Parce qu'elle est prise dans cette problématique de la manière suivante. La vertu, c'est d'attendre. S'il vient, on n'attend plus. Alors où serait la vertu? Donc il ne faut pas qu'il vienne. Est-ce que c'est un piège de l'intelligentsia, de l'intellectualité? C'est un piège. Okay? C'est de dire que tout messie qui vient, c'est par définition un faux messie. Mais j'essaie de vous dire les choses objectivement pour vous faire comprendre les deux positions. Je voudrais expliquer ce soir que le seul messianisme cachère, c'est le sionisme. Parce qu'il ne s'agit pas d'un messie qui vient ou qui ne vient pas. Il s'agit de la fin de l'exil, ce qui est d'autre part le commencement du programme messianique. Pourquoi tous les faux messianismes ont été des faux messianismes? Parce que les choses étaient à l'envers. On a parlé de quelqu'un qui était le messie et on a demandé aux juifs de les suivre. Alors ils se sont trompés toujours. Tandis que le sionisme, c'est l'inverse. C'est le peuple juif qui décide de mettre fin à l'exil. Alors le messie fonctionne. Vous voyez la différence? C'est une différence absolue. Et je crois qu'il y a de l'hypocrisie à parler du sionisme comme messianisme faux, parce qu'il n'y a jamais eu d'autre messianisme que l'espérance sioniste, c'est-à-dire la fin de l'exil. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui serait magiquement, charismatiquement, je ne sais pas quoi, un faux messie, que ce soit le Christ des chrétiens, que ce soit Shabbat Tzvi, que le grand mérite du sionisme, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de ce genre. C'est cachère. Parce que c'est la nation juive qui a décidé de mettre fin à l'exil. Ça rend perplexe ceux qui attendaient le Messie, parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qu'ils attendaient, tout simplement. Je vais vous raconter une minute l'anecdote suivante. L'anecdote tragique que je vous ai racontée il y a 2 ou 3 ans, et que je tiens de Madame Amadou Valensi, qui est, comme vous le savez, psychologue, clinicienne, indépendamment du fait qu'elle est philosophe, et qui a traité d'un cas extrêmement dramatique. C'est une vieille dame, qui est devenue folle de la manière suivante. Sa fille s'était mariée avec un juif américain, qui était donc allé en Amérique. Elle vivait la France, des origines de Russie, originaire de Russie, après la guerre. Et sa fille est donc allée vivre en Amérique avec son mari. Et chaque année, elle promettait de venir en vacances, amener les petits-enfants à la grand-mère. Le temps passe. Et puis finalement, il y a eu tous les obstacles possibles et imaginables. Le voyage ne s'est pas fait. En fait, quand il s'est fait, et lorsque cette vieille dame a vu sa fille et ses petits-enfants, elle en est devenue folle, choc. C'est-à-dire, elle n'a pas reconnu ce qu'elle attendait parce qu'elle l'a attendu trop longtemps. Et Madame Amadou-Valensi explique exactement cela du judaïsme de l'exil. C'est-à-dire, on a tellement attendu quelque chose qui était la fin de l'exil qu'on ne savait plus ce qu'on attendait. Et quand c'est arrivé, on n'a pas reconnu, on est devenu fou. Et on a dit, on attend un Messie. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et je vais vous lire maintenant sous forme de blague que j'ai vécue. Un jour, j'étais dans une yeshiva en Europe, une yeshiva passionniste. Et puis, d'ailleurs depuis, je suis interdit de séjour dans les yeshivas, je ne sais pas si vous savez. Dès que j'arrive quelque part, alors on dit dans les yeshivas, oui, oui, attention, il est là. Et on se met à lire les psaumes. J'ai problème. J'ai fini mon exposé de Talmud, et un jeune étudiant, je suis sûr qu'il était sincère, priez pour lui, qui se lève et qui me dit, mais comment on attend le Messie? Et qu'est-ce que vous nous donnez? Ben Gurion, ça fait pas le poids. Effectivement, s'il s'agissait de ça, on se mettrait à rire. Est-ce que c'est clair? Alors je lui ai raconté l'histoire suivante. Et vous savez à quel point toute l'analyse de critique de la société israélienne faite par les juifs de diaspora repose là-dessus. On attend le Messie, un rêve, et vous nous donnez une réalité comme elle est. Alors j'ai répondu de la manière suivante. Il y avait un jour une femme qui attendait un enfant. C'était la première fois dans l'histoire du monde. Elle attendait le prince charmant. 9 mois après, il y a un enfant qui naît. Elle a regardé, elle a dit, jetez-moi ça à la poubelle, j'attends le prince charmant. Heureusement qu'elle avait un mari qui lui a dit, mais c'est lui, attends, il va grandir. Il n'y en a pas d'autre. C'est exactement ça qui se passe. Oui.
Il y a beaucoup d'étrangers qui sont
c'est mon avis absolu. Je ne sais pas comment vous dire, atténuer un peu. Parce que les juifs pieux, c'est aussi des juifs. Faut pas exagérer. oui. C'est pas qu'il a voulu lui donner la bénédiction. C'est que Ésaü a hérité, a fait de lui comme fils d'Isaac cette dimension-là. Et je suis terriblement frappé de cela dans l'histoire. La rencontre entre un juif messianique et un chrétien messianiste, si vous voulez, parce que ça ne peut pas être le même adjectif, c'est une rencontre tragique, dramatique, tragique dans cet ordre-là. Parce que non seulement on ne parle pas de la même chose, mais que l'un c'est l'envers de l'autre, exactement comme deux mains, la main droite et la main gauche, vous n'arriverez jamais à faire coïncider. La seule chose qu'on peut faire, c'est un geste pieux, avec les deux mains, ou un autre angoissé. Mais seulement, c'est la même histoire. C'est l'endroit et l'envers de la même histoire. C'est tragique, dramatique. Je vais vous dire une chose, comme ça m'a frappé. Je crois que c'est une coïncidence. Enfin, cette coïncidence, elle est tellement jolie que je voudrais vous l'expliquer. Pendant 2000 ans, ce qu'Ésaü a donné dans l'histoire, c'est-à-dire la civilisation romaine, et si c'est nécessaire, je pourrais rappeler les arguments de cela, mais c'est une donnée traditionnelle connue, que finalement, le potentiel de civilisation d'Ésaü s'est réalisé dans la civilisation romaine. Et c'est pas par hasard que c'est cette civilisation-là qui, à un certain moment, quand l'ère constantinienne réclame le titre d'Israël. Et Rome réclame le titre d'Israël, jusqu'à notre temps. Et donc, pendant 2000 ans, cette civilisation, non seulement s'est réclamée de l'identité d'Israël, mais a haï Jacob, le peuple juif, de la haine d'Ésaü contre Jacob racontée dans la Bible. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Même si aujourd'hui, il y a l'aveu de repentance, ça n'annule pas que la réalité a été ce qu'elle est. Et puis, subitement, les événements que nous avons vécus, accélérés de la fin de ce temps de Rome, le temps de l'Église des Nations, télescope la conscience chrétienne et apparaît cette interrogation de la conscience chrétienne par elle-même, qui est le problème du déicide, qui est le problème de la positivité de l'alliance avec le peuple juif. Ce que vous lisez dans les déclarations épiscopales, différentes, chacun dans son temps. Bien sûr, comme vous savez, nous ne sommes pas du tout satisfaits de la lenteur que ça prend, parce que les événements sont accélérés et que nous attendrions du Vatican quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus effectif et énergique, parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Si l'Église n'arrive pas à colmater l'islam contre Israël, c'est de nouveau la guerre, c'est évident. Et regardez bien ce qui se passe au Liban, et c'est plein de nuages, là-haut, dans le nord. En tout cas, pour revenir à nos problèmes, l'Église prend conscience de quelque chose qu'elle ne pouvait pas s'avouer, c'est que cette haine anti-juive de la conscience chrétienne était quelque chose de blasphématoire pour le christianisme lui-même, pour la pureté chrétienne elle-même, je pense que c'est clair. Comment c'est arrivé? Un certain Jules Isaac, et ça il faut le faire.